Matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Voici Franz-Olivier Gisbert, notre esprit libre du jeudi. J'étais déjà en pleine conversation avec lui. Franz, bonjour, merci d'être avec
bonjour,
nous.
Bonjour David.
Comme chaque jeudi, hier, la mairie de Paris a annoncé couper les subventions au lycée Stanislas, un lycée privé, dans la foulée de ce qui est devenu l'affaire Oudéa-Castéra. Êtes-vous en mesure, Franz, de mettre un point final à cette polémique? Car Radio Classique, je vous l'avoue, en trouve assez ridicule.
Bah moi aussi, et je pense que la mairie de Paris n'en rate pas une. Hein, bon, on a l'habitude. Et je crois que cette affaire, elle montre que nous vivons dans un monde de fous. Parce que l'erreur de la ministre, ça a été de répondre à une question d'un inquisiteur de Mediapart. Elle aurait pu répondre, bah excusez, moi j'ai du travail, je passe. Enfin, elle n'était pas obligée de répondre, mais elle a répondu avec beaucoup de naïveté. À partir du moment où elle le faisait, elle entrait dans la lessiveuse dont elle ne va pas sortir, à mon avis, avant plusieurs semaines, vous allez voir. Son crime, eh ben, Mediapart nous a sorti donc que la ministre avait placé ses enfants à Stanislas. Alors, c'est ça qui est intéressant, un établissement catholique, aux horreurs, où selon l'administration, quelle administration, ça on ne sait pas encore, aurait été tenu, parce qu'il y a un rapport, hein, soi-disant, aurait été tenu parfois des propos sexistes ou homophobes. Ce qui n'est pas le cas du tout du lycée Averroès de Lille, un établissement privé musulman, que le préfet des Hauts-de-France a décidé de ne plus subventionner à hauteur de 500 000 euros. Là, Mediapart a pris fait et cause pour le lycée Averroès, où étaient bannis, entre autres, les ouvrages autour de l'homosexualité. Ah bah non, c'est pas halal, ou c'est pas licite, et où se déroulaient aussi des lectures salafistes, ce qui, comme chacun sait, ce sont forcément des lectures très très ouvertes.
Donc Mediapart a des lunettes à double foyer.
Mais oui, mais ça c'est normal pour Mediapart, parce que la morale de tout ça, c'est qu'aux yeux de beaucoup dans la France d'aujourd'hui, il vaut mieux être musulman que catholique. Et ces inquisiteurs aux petits pieds ne volent pas d'écoles catholiques, mais ils volent des écoles musulmanes, coraniques, enfin le maximum. Quand je vous disais que nous étions dans un pays de fous, et comme disait Beaumarchais, pressons-nous d'en rire plutôt que d'être obligé d'en pleurer.
Allez, Oudéa-Castéra, c'est terminé. Vous avez suivi.
On n'en parle plus.
Le remaniement. Terminé.
Ah non, c'est
vous avez suivi le remaniement, l'intervention du président mardi. Y a-t-il un nouveau Macron?
Ah ben moi, je trouve que c'était une belle démonstration. C'est-à-dire, on peut parler d'une forme de résurrection. Il pétait le feu. et pour la première fois, on avait le sentiment qu'il savait où il allait. Bon, après qu'il eut fini, d'ailleurs, j'ai dit à ma femme, on a regardé la conférence de presse ensemble, bah, tu vois, je pense que ça ferait un bon président. Faudrait y penser à la prochaine présidentielle.
Ah, vous voulez un troisième mandat?
Elle m'a dit, bah non, tu savais pas qu'il l'était président depuis plus de 7 ans? Non, je plaisante. Hein. Avec le recul du temps, d'ailleurs, il me fait penser, le Macron qu'on a vu, vraiment époustouflant, mardi soir, il fait penser au sketch du célèbre humoriste Jean-François Derec, que j'adore. Il y a le premier type qui dit « Quel talent! Il a vraiment bien parlé, le président. » « Ah bon ?» s'étonne le second type. « Et de quoi a-t-il parlé ?» Alors le premier type. « Ah bah ça, il l'a pas dit. » Macron, en tout cas, a donné le sentiment qu'il était revenu, parce que ces derniers temps, il faut le reconnaître, il était un peu parti. Et si c'est redressé ainsi, il y a toutes sortes de raisons. Bah évidemment, il était encalminé, on peut dire que même son mandat était à l'agonie. Et puis je pense qu'il redoutait que ça commence un peu à sentir le roussi, et surtout qu'il soit frappé par le fameux syndrome Obama, Barack Obama, l'homme qui a laissé tant grandir les tensions dans son pays, par son inaction, hein, parce qu'il n'a pas fait grand-chose, notamment dans son second mandat. Et finalement, on peut dire que c'est lui qui a laissé le pouvoir à Donald Trump. Macron, il veut pas être celui qui, dans l'histoire, aura passé les clés du pouvoir à Marine Le Pen.
Mais vous l'avez trouvé bon sur la forme, ça je le devine en vous écoutant.
Sur le fond, on attend toujours les actes, c'est le problème avec Macron.
Non mais la direction donnée, le réarmement, la lutte contre la fécondité, le fait que la France se remette à faire des enfants, l'engagement aux côtés de l'Ukraine réaffirmé.
Ben oui, mais tout ça, on avait l'impression qu'il était en charge. Jusqu'à présent, c'était pas trop le cas. Et je sais pas si vous vous souvenez de son allocution absolument lamentable. Après sa victoire de 2022, bon, ça faisait peur même. On avait l'impression qu'il était en dépression.
Donc pour vous, on a retrouvé le président de la République.
Absolument. Oui, tout à fait. Bon, après, comme toujours, on attend les actes.
Est-ce qu'il a laissé assez d'espace à Gabriel Attal? Est-ce que ce président, qui est déjà omniscient sous la Ve République, omnipotent, va pouvoir permettre de révéler ce jeune Premier ministre? Et surtout, que peut dire Gabriel Attal pour poursuivre ce qui a été dit par Emmanuel Macron mardi soir?
Je pense qu'on n'aimerait pas être trop à sa place, hein, parce que bon, il a beaucoup de talent, Gabriel Attal, c'est incontestable. Mais encore faudrait-il que Macron le laisse vivre, se déployer. Je dirais, ça n'en prend pas le chemin, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il était lors de sa conférence de presse, on peut dire qu'il était ministre de l'Éducation nationale, entre autres, parce qu'il était ministre de tas de choses, et aussi Premier ministre. Surtout, c'était presque un discours de politique générale qui nous avait d'ailleurs. Attal doit en faire un dans quelque temps. Je pense que il lui a quand même pas mal coupé l'herbe sous le pied. C'est, Macron, il est un peu comme les pins, si vous voulez. Vous savez, les pins, ils n'aiment pas les arbres qui poussent en dessous d'eux. Vous savez, ils les aspergent d'acide et puis ces pauvres arbres meurent. En fait, ils font disparaître tout ce qui est en dessous. C'est un peu ça, Macron, si on regarde bien.
Vous savez qu'on surnomme le pin des Landes?
Oui.
C'est Alain Juppé.
Oui.
Mais il se fait surnommer
il a fait quelques petits. Il a fait notamment Édouard Philippe, Bournazel à la Paris. Enfin, il y en a ici ou là. On attend toujours les petits. Alors, il y a un beau petit, hein. Franchement, il devrait en prendre soin. C'est Gabriel Attal, parce qu'il est doué. Il n'y a pas d'histoire.
Alors, justement, faisons un pas de côté. Vous qui connaissez la Ve République, vous avez écrit dessus. À quoi reconnaît un bon Premier ministre? À la durée, aux réformes qu'il arrive à engager, à sa loyauté vis-à-vis du président de la République, à sa capacité à encaisser les coups? Qu'est-ce qu'un bon Premier ministre sous la Ve, Franz?
Je dirais, c'est quelqu'un qui protège le président de la République. C'est-à-dire qu'il doit avoir une répartition des rôles. J'ai pas l'impression qu'il y en ait une. La répartition des rôles absolument géniale sous De Gaulle. On va pas toujours revenir à De Gaulle, mais enfin, c'était quand même un grand moment de la 5e République.
Pompidou a été le meilleur président, Premier ministre.
C'est-à-dire, il y avait un président qui présidait De Gaulle. C'est-à-dire qu'il prenait son vendredi, qui répondait pas toujours au téléphone, qui partait, on ne savait pas très bien où. C'est-à-dire qu'il réfléchissait. Et puis, il y avait le Premier ministre qui gouvernait. Et pour résumer, on disait, De Gaulle, il s'occupe de la France, et Pompidou, il s'occupe des Français.
Et on oublie Michel Debré, mais Michel Debré est
très grand fusible aussi. Oui, très grand Premier ministre. Mais il y a eu un paquet de grands Premiers ministres. Même Michel Rocard, détesté par François Mitterrand, on peut dire qu'il faisait le boulot, il assurait, vous regardez son bilan, il n'était pas si mauvais.
Franz, vous dites un Premier ministre, c'est quelqu'un qui protège le président de la République. Est-ce que Rachida Dati va l'exposer? Est-ce qu'elle va lui faire prendre des risques? Est-ce que c'est le bon choix, Rachida Dati, qui a annoncé hier sa candidature à la mairie de Paris?
Ah bon, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, simplement. Je pense que Macron n'était pas assez naïf pour penser que elle n'en ferait pas qu'à sa tête. Hein, parce que bon, il a prétendu qu'il n'avait pas parlé à la mairie de Paris, vous avez dit tout de suite au contraire. Bon. Je pense que c'est une guerrière. Et la Macronie avait besoin, comme vous l'avez remarqué, d'une guerrière, parce qu'il y a une grosse pénurie de guerriers et de guerrières dans la Macronie. Et je pense qu'elle va occuper, maintenant c'est là pour ça, occuper le terrain, les médias. C'est pas une perte pour LR, contrairement à ce qu'on raconte, parce que LR, il a beaucoup de premiers ou de deuxièmes couteaux. Regardez, enfin, des rois de la punchline, comme on dit, j'aime pas trop cette expression franglaise, mais... Il y en a partout. Regardez Olivier Marleix ce matin dans le Figaro, c'est formidable, à propos
des écrans.
Quand il dit à Macron, bon courage, qu'il vienne me voir à la maison, ça m'aiderait bien. Bah oui, parce qu'on a tous les mêmes problèmes avec les enfants. Bon, donc, ils avaient besoin d'une calamity Jane, hein, d'une tueuse ou d'une snipeuse, comme on dit, ça c'est encore du franglais. Enfin, il n'y a pas de traduction en français. Et elle va pas faire dans le détail. Et elle ne fera pas de quartier. Et je pense qu'en plus, dans les milieux populaires, elle peut être aussi une arme fatale. Voilà. Et je pense que Macron, d'ailleurs, vous avez bien vu, malgré déjà les premiers petits couacs, enfin, qui n'en sont pas vraiment, je pense qu'il s'y attendait, ben vous avez vu quand même qu'il lui fait un beau cadeau. Il va l'accompagner ce matin. C'est pas Rachida Dati qui va accompagner le président, c'est le président qui va accompagner Rachida Dati, ministre de la Culture, pour sa première sortie à Clichy-Montfermeil. Alors, c'était pas beau.
Oui, c'est un honneur qu'il lui fait et un soutien. Quand vous dites elle va occuper le terrain, elle va trouver des punchlines, etc., etc. Enfin, elle est quand même ministre de la Culture. Donc, quel sera son cheval de bataille? Sur quel registre elle va intervenir? Comment elle va se comporter vis-à-vis des intermittents du spectacle à la cérémonie des Césars? Est-ce qu'on va avoir une Rachida paillette ou une Rachida Rachida culture populaire. Est-ce qu'on va avoir une Rachida qui trouve que Depardieu est un très grand acteur ou une Rachida qui prend la défense des femmes qui tournent dans le cinéma et qui parfois sont exposées à la voracité de certains acteurs?
Écoutez, ça, je peux pas vous répondre pour une raison très simple, c'est que Rachida, c'est un spectacle. Et c'est un spectacle toujours plein de surprises. Donc, on aura forcément des surprises dans les mois qui viennent. Et je pense même, bon, parfois on va bien s'amuser. Et elle va faire peur. Elle va faire peur parce que c'est vrai que vous avez vu la polémique affreuse avec Barouin. Bah oui, l'ancien ministre de Sarkozy, bon, qui a critiqué son départ, le maire de Troyes, qui est une personnalité quand même très forte, bon, il répond de manière extrêmement violente. C'est-à-dire, oui, il faut qui s'y frotte s'y pique.
Un mot sur Olivier Dussopt qui est relaxé après une campagne de presse qui a suivi les allégations de Mediapart et puis aussi le cours de la justice. Ce matin dans le journal L'Opinion, Rémy Godeau signe un édito qui explique que finalement la présomption d'innocence est la première règle à adopter et que le fait d'être mis en examen ou d'être mis en cause pour un ministre n'est plus une obligation pour lui de quitter le gouvernement.
Oui, mais je trouve que c'est une très bonne mesure. Vous savez, c'était encore une enquête du parquet national financier qui s'est, semble-t-il, intéressé beaucoup à lui après qu'il ait quitté la gauche du Parti Socialiste. N'oubliez pas que c'était un frondeur sous Hollande. D'ailleurs, c'est le seul frondeur qui a été réélu. Tous les autres ont été battus. Et lui, il a été réélu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est immédiatement passé chez Macron. C'est très drôle. Et là, évidemment, toute une série d'ennuis ont commencé pour lui. Parce que, je le répète, par rapport à une certaine justice partisane, là je vise notamment le parquet national financier, c'est sûr qu'il vaut mieux être de gauche qu'être de droite. Hein. Si vous êtes de droite, alors là, les affaires pleuvent tous les jours, vous savez plus quoi faire.
Darmanin qui laisse entendre qu'il pourrait quitter le gouvernement après les Jeux Olympiques.
Ben oui, Darmanin, il a une grande ambition. C'est une des figures les plus intéressantes de ce gouvernement. Et une campagne présidentielle, figurez-vous, ça se prépare. Et donc je pense qu'il a toujours des ambitions. Peut-être que ce sera pas forcément pour ce coup-ci, puisqu'il est encore jeune, si ma mémoire est bonne, il a 41 ans, mais il est habité par ça. Et je pense que effectivement, s'il quitte le gouvernement, ce sera pour prendre un peu de distance par rapport à Macron, sans plus d'ailleurs, et puis pour préparer sa campagne présidentielle.
Franz, c'est votre anniversaire aujourd'hui, quand vous...
Ouais, mais ça, non, c'est pas la peine. Vous savez, je me rappelle même plus de mon âge, il change tout le temps.
Il change tout le temps, mais qu'est-ce que ça vous inspire quand le temps qui passe et ces années à commenter la politique et à voir vieillir les hommes politiques en même temps que vous, pardonnez-moi, mais
non,
on
moi
vieillit
pas,
tous.
Non, pas moi, pas moi.
Vous savez,
moi,
vous sentez aussi
j'étais
jeune qu'à 25 ans.
Pour remplacer mon grand ami Philippe Tesson, le regretté Philippe Tesson, et il avait une particularité, Philippe Tesson, et j'essaie de rester à la hauteur. Vous savez quoi? Il avait toujours 20 ans.
Happy birthday, joyeux anniversaire, Franz-Olivier Gisbert. Je pense qu'on va recevoir pas mal de messages. Des pour, des contre le vieillissement de Franz-Olivier Gisbert. On a l'âge de ses artères. On va mettre légèrement Marilyn en sourdine. Merci Franck. Dans un instant, on va retrouver le flash d'Augustin Lefebvre, la météo. Évidemment, Franck Ferrand, allez encore un petit peu.
Mr. President, happy birthday to you.